RCF.
Si je vous dis apostrophe, vous pouvez bien sûr, à la manière du petit Robert, me répondre « signe qui marque l'élision d'une voyelle » ou encore « apostrophe », figure de rhétorique par laquelle un orateur interpelle tout à coup une personne. Mais pour beaucoup, « apostrophe » reste une émission de télévision qui a fait aimer, connaître la littérature à des millions de téléspectateurs entre 1975 et 1990. Bernard Pivot, c'est vous qui animiez cette émission, devenue mythique, avec comme invités Marguerite Yourcenar, Nabokov, Solzhenitsyn, Marguerite Duras et bien d'autres. Après les 724 numéros d'apostrophe, vous avez créé Bouillon de Culture, puis Double Jeu, et vous êtes également aujourd'hui membre de l'Académie Goncourt. Alors Bernard Pivot, dans Les mots de ma vie, que vous avez publié chez Albin Michel, un original dictionnaire autobiographique, je me suis rendu directement, avec curiosité bien sûr, à l'entrée écrivain. Vous avez d'ailleurs consacré deux entrées à écrivain. Et j'ai trouvé ceci. On ne le devient pas, on est écrivain. N-A-I-T. L'encre précède l'existence. Qu'est-ce qui vous fait affirmer ça?
Oh, c'est une exagération. Mais en même temps, c'est presque une justification que je ne sois pas écrivain. Voilà. Donc, je me suis dit, il faut trouver les raisons. Qu'est-ce qui fait qu'on devient écrivain? Alors, j'ai trouvé cette explication qui vaut ce qu'elle vaut. En vérité, c'est plus une manière astucieuse et élégante de dire, il faut naître écrivain, sinon on ne le devient pas, ou on le devient parfois pour des mauvaises raisons, pour éblouir ses parents, pour conquérir une femme, pour éblouir aussi ses voisins, etc. Mais ou entrer à l'Académie Goncourt, à l'Académie française. Mais évidemment, les manières d'entrer sur les chemins de l'écriture sont innombrables. Elles sont autant d'écrivains, autant de chemins différents.
Mais ce qui veut dire que vous ne vous considérez toujours pas comme un écrivain?
Non. Alors, évidemment, maintenant, je suis tombé, Didier Decoin et Jérôme Garcin m'ont dit tous les deux, alors, la prochaine fois que tu diras que tu n'es pas un écrivain, on va mal le prendre, hein, on te prévient. Arrête de dire ça. Alors, c'est vrai que dans ce livre aussi, j'ai essayé d'être un écrivain. Je suis très exigeant sur la qualité de l'écrivain. Un écrivain, pour moi, et je les ai beaucoup fréquentés, c'est un homme ou une femme qui a dans sa tête tout un monde imaginaire ou un monde réel, ou tout un monde de pensée, de réflexion, de philosophie, et qui est capable, avec un style tout à fait particulier, qui lui est propre, de mettre tout ça noir sur blanc. Je suis loin de tout ça. Je suis donc quelqu'un, un journaliste. En tout cas, j'ai essayé d'être un bon journaliste qui, sur la fin de ses jours, essaye de, non pas de renouer, mais en tout cas de s'appliquer le mieux possible pour écrire un livre qui relève plus ou moins de la littérature.
Alors vous venez de dire un mot intéressant, non pas de renouer. Est-ce que quelque part, vous essayez pas de renouer? Parce que
oui,
j'ai découvert,
oui,
en vous lisant, qu'à 23 ans, en 1959, vous avez écrit un premier roman.
Oui, le seul.
L'amour en vogue,
oui,
le premier, et le seul que,
oui,
vous avez arrêté après.
Oui.
Pourquoi? Il y a eu une
déception? Tout simplement parce qu'entre-temps, je suis entré au Figaro littéraire, je me suis mis à lire tous mes contemporains, et je me suis aperçu que vraiment, je n'avais pas le talent d'être un écrivain, et qu'il valait mieux devenir un bon journaliste qu'un mauvais écrivain. De surcroît, j'ai rencontré par exemple Bernard Clavel, qui était journaliste au Progrès de Lyon, et qui travaillait la nuit au journal, et le matin, il rentrait chez lui, et il se mettait à écrire ses romans. Je me disais, c'est une vie de forçat, c'est une vie impossible. Jamais je ne deviendrai écrivain comme ça. Moi, j'allais avoir une famille, il fallait gagner ma vie. Je n'allais pas gagner ma vie en écrivant des livres.
Mais beaucoup de journalistes sont écrivains également.
Oui, oui, mais
j'ai
trouvé que c'était difficile.
Je me suis demandé, Bernard Pivot, si ce n'était pas une blessure secrète chez vous. Et je suis allé chercher dans le livre d'entretien avec Pierre Nora, Métier de lire, et page 34, vous lui dites ceci. Je vais vous dire le secret tout bête de ce que certains ont appelé le miracle d'apostrophe. Je ne suis pas écrivain. J'ai du regret de ne pas l'être. Mais de cette vieille blessure, profonde, camouflée, je n'ai tiré ni dépit ni aigreur, mais une sincère admiration, qui n'est pas pour autant béate, et une violente curiosité pour toute personne qui a convaincu Gallimard, Fayard, Actes Sud ou Bernard Barrault d'imprimer son nom à côté du leur sur une couverture de bouquin. Ouais. C'est toujours une profonde blessure de ne pas
être
écrivain.
Alors, je ne dirais pas que c'est une profonde blessure aujourd'hui. Je dirais que c'est encore une légère blessure, mais c'est une blessure quand même. Oui, parce que à 18, 20 ans, sachant quoi faire, je me disais pourquoi je n'écrirais pas un roman. Et donc, je l'écris, ce roman. J'avais 21 ans, j'avais 6 mois devant moi, je l'ai écrit. D'ailleurs, c'est un roman qui se passe à Lyon. Ça s'appelle L'amour en vogue, et la vogue, c'est le mot de la fête foraine à Lyon. Donc, le héros était gratteur de tête dans le train fantôme.
Ça, on en reparlera dans un moment. Gratteur de tête, c'est important.
C'est un roman de. Mélancoliquement autobiographique, mais qui n'est pas du tout, mais qui ne l'est pas au sens strict du terme. Mais après, je me suis aperçu que j'avais pas le talent, quoi. Voilà, quand on entreprend, si on veut être écrivain, il faut qu'on soit un très bon écrivain.
Sinon, mais on peut pas juger ça sur un livre. Il aurait peut-être fallu persévérer, non?
Non, j'avais très conscience de mes limites, de mes défauts, et donc j'ai renoncé. Et je me suis dit, alors c'est une blessure. Je pense que aujourd'hui, je n'écrirais pas une profonde blessure, je dirais une blessure. Je crois que l'adjectif est de trop, là, franchement.
Qui est en train de se refermer suite à ce livre, par exemple.
Oui, qui s'est refermé, mais c'était une blessure. Et d'une certaine manière, pour guérir cette blessure, j'ai publié Les mots de ma vie. C'est un peu une réponse à cette blessure. C'est-à-dire, oui, j'aurais peut-être pu devenir écrivain, et vous voyez, dans ce livre, je fais l'écrivain. Et c'est vrai que je reçois pour ce livre un accueil des critiques qui me fait penser que je n'ai pas tout à fait raté ma cible.
Alors Bernard Pivot, est-ce que d'une certaine manière, ça n'a pas été une chance pour vous de ne pas être écrivain et d'avoir, je dirais, cette humilité que vous avez pour pouvoir interviewer tous les écrivains que vous avez interviewés?
Ah oui, je pense que moi, personnellement, j'ai toujours pensé qu'il est incompatible d'être à la fois l'écrivain et d'être journaliste, journaliste interviewant des gens à la télévision. Et si je n'ai pas, parfois, ça me démangeait d'écrire un livre. D'ailleurs, dans le livre, je l'ai écrit plusieurs fois. Je dis, tiens, j'aurais bien écrit un livre sur les chats. J'aurais écrit un livre sur un roman intitulé La vie désinvolte. Je trouvais que le titre était génial, mais j'en ai pas écrit un livre. Mais j'avais des velléités, des prurites, ça me démangeait de temps en temps. Mais je me disais, de toute façon, je ne publierai pas parce qu'il me semblait que déontologiquement, il n'était pas très honnête pour moi de mettre à l'aventure des librairies, en concurrence avec les livres des auteurs que j'invitais à Apostrophe ou Bouillon de Culture, un livre signé de moi.
Visage, RCF.
Oh Bernard Pivot, si vous le voulez bien, nous allons faire un retour en arrière dans votre enfance, dans votre vie. Vous êtes né à Lyon en 1935, mais il y a un lieu dans les monts du Beaujolais qui compte beaucoup pour vous, c'est Quincier. Beaujolais. Vous y avez passé une partie de votre enfance
J'ai passé la guerre parce que mon père était prisonnier. Donc ma première école, c'est l'école communale de Quincier en Beaujolais. C'est là où j'ai appris à lire et à écrire. Et j'étais avec mon petit frère qui est né au moment de la déclaration de guerre. Et donc c'est ma mère qui, dans des conditions assez difficiles, nous a élevés tous les deux et a eu la fierté, quand mon père est revenu de la guerre, de dire voilà tes deux fils.
Et ça a dû être un moment assez extraordinaire, non? Vous, petit garçon, vous n'avez pas vu votre père de 6 ans à 10 ans.
De 5 ans à 10 ans, oui.
Et vous vous souvenez le jour où il est revenu?
Oui, je m'en souviens très bien. D'ailleurs, je l'ai raconté dans le dictionnaire Amoureux du vin. C'était le jour de mes 10 ans. Le jour de mes 10 ans, donc le 5 mai 1945, toujours les 5 ont beaucoup joué un rôle dans ma vie. Donc j'étais à l'école, on m'a dit ton papa est de retour, donc j'ai quitté la classe, mais c'était le mérite et jouxte toujours d'ailleurs l'école communale. Et donc je suis allé voir mon père, et quand j'avais gardé le souvenir d'un homme qui avait des longs cheveux ondulés, j'ai vu arriver un homme qui était aux trois quarts chauve. Donc j'ai été un peu déçu. Plus de ça, il était dans des habits de prisonnier de guerre avec le KG marqué dans le dos, donc un peu infamant. Donc j'ai été pas bouleversé, mais enfin j'ai eu du mal à reconnaître mon père. Et en revanche, j'ai vu ma mère très heureuse. Voilà, ce jour-là, jamais ma mère n'est parue aussi belle que ce jour-là. C'était très émouvant. Et aujourd'hui, quand j'essaye de retrouver ce souvenir, j'ai pas besoin de faire un gros effort pour le retrouver, je suis très ému.
En 1945, au retour de votre père, vous retournez à Lyon, où vos parents étaient épiciers, avenue du Maréchal Foch.
42 avenue du Maréchal Foch, au 6e, Bon Produit.
Au Bon Produit. Vous avez été mis en pensionnat tout de suite.
Oui, parce que mes parents ne pouvaient pas s'occuper de moi. Ils avaient mon petit frère qui avait 5 ans. Donc lui, on ne pouvait pas le mettre en pension. Est-ce que moi, on pouvait. Donc on m'a mis en pension au pensionnat Saint-Louis, qui s'appelle aujourd'hui le pensionnat Saint-Louis-Saint-Bruno, qui est à la Croix-Rousse. Et d'ailleurs, ils avaient hésité entre l'école des Chartreux, qui est aussi la Croix-Rousse, et puis le pensionnat Saint-Louis. Alors, le pensionnat Saint-Louis était moins cher. Et puis, il y avait une chose aussi qui plaisait beaucoup à mes parents, c'est qu'on ne préparait que le bac moderne. Ce qui allait être pour moi une calamité, parce qu'ils trouvaient que l'avenir appartenait aux matheux et non pas aux littéraires. Et donc, je me suis retrouvé dans un pensionnat où on ne préparait à ce moment-là que le bac moderne, c'est-à-dire maths, physique, chimie. Et moi, évidemment, j'ai été dérouté. Alors que je n'avais qu'une... si j'avais quelques appétits, c'était dans le domaine de la grammaire, de l'orthographe et de la composition française. Donc j'étais assez... j'ai manqué de chance, là.
Alors c'est dans l'entrée de votre livre, Football, que vous parlez de ces frères du Sacré-Cœur.
Oui.
Je vais lire ce que vous écrivez sur ces frères du Sacré-Cœur. Vous dites « Les frères du Sacré-Cœur n'ont pas fait de moi un homme pieux ni cultivé, mais sans eux, sans le football, dont ils furent des croyants, des persélériers et même des missionnaires, je n'aurais jamais marqué autant de buts à la télévision. »
Ah, c'est,
ça, ils vous ont marqué,
ah, mais
surtout...
C'était incroyable. Je veux dire, le pensionnat Saint-Louis, à l'époque, avait de très mauvais résultats au baccalauréat, mais très mauvais. Alors, le bac était beaucoup plus difficile qu'il ne l'est aujourd'hui, bien entendu, mais... En revanche, dans tous les sports, on était champion. Champion athlétiste, champion de cross-country, champion de basket, champion de football. Donc moi, je faisais du football.
Et ça vous convenait, vous ?
Et ça me convenait. Et alors, moi qui avais un tempérament un peu solitaire, un peu rêveur, un peu romantique, ça me faisait du bien de m'intégrer dans une équipe de football, d'avoir l'esprit d'équipe, de s'efforcer de gagner, d'être solidaire quand on perdait, mais d'être solidaire aussi quand on gagnait. Et donc, ces qualités-là d'opiniâtreté, d'énergie, de volonté de gagner, je les ai conservées. C'est là que je les ai, que elles sont nées en moi, et c'est grâce à ces qualités que j'ai pu faire la carrière qui a été la mienne.
Oui, vous dites, toute ma vie professionnelle, j'ai été un individualiste,
oui,
ayant l'esprit d'équipe.
Voilà, c'est ça.
C'est là où
je suis resté l'enfant que j'étais, c'est-à-dire individualiste, rêveur, un peu romantique, et en même temps, ayant la volonté et la joie de m'incorporer dans une équipe de football où j'avais mes copains, et d'ailleurs, qui sont d'ailleurs toujours mes copains. Et peut-être m'entendent-ils actuellement.
Alors, le 6e arrondissement dans lequel vous viviez est un arrondissement plutôt chic.
Oui.
Vous étiez le fils de l'épicier.
Oui.
Est-ce que, comme André Malraux, vous étiez un peu gêné par vos origines sociales ?
Pas du tout. Non, pas du tout. Alors, en plus de ça, il y a une entrée triporteur, puisque parfois le jeudi, qui était le jour de congé de la semaine, et le dimanche matin, pour remplacer le commis, ou parce que le commis était débordé, donc je prenais le triporteur et je livrais aussi des patates, du vin ou des fruits et légumes aux bourgeois du quartier, et qui souvent étaient les parents de camarades qui étaient avec moi.
Ça ne vous gênait pas,
non,
ça.
Pas au lycée Ampère. À ce moment-là, j'étais au lycée Ampère, et ça ne me gênait pas du tout. Non, ça ne me gênait pas. Souvent, c'est eux qui m'ouvraient la porte, donc on se marrait, etc. Mais, et ça, j'insiste dans le livre là-dessus, le lycée Ampère était un lycée de garçons. Mais si le lycée Ampère était un lycée mixte, comme il l'est aujourd'hui, je pense que j'aurais été j'aurais socialement ressenti une blessure devant les filles. Ça, je le sentais. Parce que quand je servais dans le magasin, quand il y avait des très jolies filles du quartier qui me méprisaient parce que j'étais le fils de l'épicier, ça, je le ressentais durement. Mais avec les garçons, non, pas du tout. Avec mes copains, pas du tout.
Et ensuite, dans votre carrière professionnelle, Bernard Pivot, ça vous a gêné ou pas du tout ?
Non, pas du tout. Non, absolument pas. Non.
Et vous êtes toujours resté fidèle à vos copains de l'époque, à vos
amis absolument, de l'époque. Oui. Non, j'ai pas honte d'avoir été le... Et l'autre jour, d'ailleurs, Frédéric Taddeï, sur France 3, m'a dit, mais finalement, on vous a jamais appelé l'épicier de la littérature, etc. J'ai dit non, personne ne m'a dit ça, mais après, je sais ce que j'aurais dû lui répondre. Mais vous savez, si j'ai fait... acheter des livres aussi bons que les produits, que les melons, les tomates, qui avaient le goût de tomate, les melons odorants et les pêches juteuses que vendait mon père, alors j'ai été un journaliste parfait.
Alors Bernard Pivot, pourquoi avoir fait le choix de devenir journaliste et pas, par exemple, de prendre la succession de votre père. Comme
non, alors ça, j'ai aucune qualité commerciale, j'avais... Non.
Vous n'auriez pas été un bon marchand de fruits et légumes.
Ah non, absolument pas. Autant mon frère avait à hériter des qualités de commerçant de mes parents, autant moi, alors absolument nul. D'ailleurs, dans ma vie, j'ai toujours acheté une maison ou un appartement quand c'était au plus haut, et toujours revendu quand c'était au plus bas. Donc voilà, vraiment, j'ai pas la bosse du commerce. Non.
Alors, comment est venu ce désir d'être journaliste?
Le hasard, j'étais plutôt, donc je vous le dis, j'ai dû redoubler la classe de terminale pour passer le bac. Donc j'étais un lycéen plutôt moyen, pour pas dire médiocre. Et puis je me suis inscrit au droit. Quand on ne savait pas quoi faire, ben on s'inscrivait au droit. Là, j'ai voulu devenir inspecteur des contributions, qui est une idée absolument totalement stupide. Je me suis inscrit dans une école qui préparait d'ailleurs. Et on m'a renvoyé pendant un mois des copies barrées de rouge en me disant « Mais soyez sérieux, comment écrivez-vous » Évidemment, j'étais incapable de prendre le style de l'administration. Et puis un jour, un lointain parent, me voyant lire souvent le Progrès, le Figaro littéraire, des revues, m'a dit « Mais pourquoi tu n'écrirais pas? Pourquoi tu ne deviendrais pas journaliste ?» Et ça, comme j'étais pas sûr de moi, mais pas du tout, j'ai pensé que je n'avais pas les qualités pour devenir journaliste, que ça serait trop compliqué pour moi. Je me suis quand même inscrit au centre de formation des journalistes, j'ai passé le concours d'entrée, et à ma surprise, j'ai été admis. Voilà, c'est comme ça que je suis devenu journaliste. Mais j'étais si peu sûr de moi que je raconte dans le livre que le premier jour, la veille du premier jour d'études du CFJ, je suis arrivé gare de Lyon.
Vous avez pris une petite chambre d'hôtel. Hein,
j'ai remonté la rue de Lyon et je me suis dit, ça va mal se passer, j'en suis certain. Donc j'ai trouvé une chambre au City Hotel qui n'existe plus aujourd'hui, enfin qui a changé de nom, une chambre mansardée. Et je me suis dit, si ça tourne mal à l'école, je suis à 200 mètres de la gare de Lyon, je repartirai pour Lyon. Et là, la chose extraordinaire, c'est que le lycéen presque médiocre que j'étais s'est transformé presque du jour au lendemain en un étudiant brillant.
Alors Bernard Pivot, à plusieurs reprises, vous avez déclaré « Je suis devenu un homme public grâce à une succession de clins d'œil du hasard. »
Oui, de chance.
La chance, c'est vraiment la chance à compter dans votre carrière.
J'ai pas mis le mot chance parce que je me suis dit, ça sera redondant étant donné qu'il suffit de lire le livre pour s'apercevoir que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Donc je vais pas en rajouter. De même que j'ai pas mis le mot sentimental parce que je me suis dit, les gens vont bien voir que je suis sentimental. Donc c'est pas la peine aussi de l'y mettre, ce mot-là. J'ai une chance extraordinaire. Mais je vous dis, c'est même pas moi qui ai voulu devenir journaliste. On me l'a soufflé dans l'oreille. Après, je suis entré au Figaro littéraire par le plus grand des hasards. J'en ai spécialisé dans la littérature aussi par chance. La radio, j'ai fait des chroniques à Europe 1 à la demande de Maurice Siegel qui était le directeur, mais j'ai jamais voulu faire de la radio. Après, la télévision, c'est Jacqueline Baudrier qui dirigeait la première chaîne qui est venue me chercher. Donc, j'ai jamais eu de plan de carrière, de désir de faire ceci ou cela. Chaque fois, on est venu me proposer un défi. Mais alors, là, j'ai une qualité.
Oui, il n'y a pas que la chance même, parce que vous êtes un laborieux.
J'ai une qualité, j'ai deux qualités, c'est que je sais reconnaître la chance, et j'ai remarqué d'ailleurs que dans la vie, beaucoup de gens passent à côté de la chance sans l'avoir. Et ça, c'est une qualité que j'ai, je me suis dit, ça c'est ta chance, mon petit Bernard.
Donc saisis-la,
Et là, je l'ai saisie, et là, on revient aux qualités héritées du sport, du football, là, je me dis, il faut que je relève le défi qui m'a été proposé, il faut que je donne satisfaction aux gens qui m'ont fait confiance, et donc là, il faut que je bosse, et l'opiniâtreté, l'envie de gagner, toutes ces qualités sportives, là, je les appliquais au travail qui m'avait été confié.
Mais alors, Bernard Pivot, vous avez été un laborieux à un point assez extrême, il faut quand même le dire.
Laborieux est un peu péjoratif. Hein.
Oh non, c'est qui a du labeur, qui travaille, non?
J'étais un travailleur. Ouais. J'étais un travailleur, un gros travailleur, un gros. Et à tel point, d'ailleurs, que j'en fais l'aveu dans le livre, que j'ai négligé ma famille. Quand j'ai commencé la télévision, j'avais 38 ans, donc c'est une vocation tardive pour la télévision. Mais j'avais une famille avec deux filles. Et donc, mais quand j'ai vu que ce que j'avais accepté, il fallait le réussir.
Est-ce qu'il fallait travailler autant? Sincèrement, attendez, vous lisiez 10 à 12 heures par jour.
Oui.
Vous aviez 4-5 invités sur vos plateaux. Reprenons l'époque d'Apostrophe. Vous aviez 4-5 invités sur le plateau. Vous lisiez tous les livres en entier.
De A à Z, annoté.
Attendez. Aujourd'hui, entre nous, vous le savez bien, ça se fait pratiquement plus.
Oui.
Ils ont des assistantes qui leur font des fiches. Ils lisent la quatrième de couverture.
Jamais pu travailler.
Vous n'auriez pas pu faire ça.
Jamais pu. Il me semble que il me semble que, comme je suis très spontané, il me semble que les écrivains et les publics auraient vu que je n'avais pas lu le livre, qu'ils auraient compris que... Alors, ce qui me paraissait essentiel, c'est que j'arrive avec mes bardés de questions, avec exactement comme le chasseur qui part pour une journée de chasse et qui a une ceinture de cartouches, il ne va pas tirer autant de cartouches. Et bien, moi, c'est la même chose. J'étais bardé de questions et je savais très bien que les deux tiers de mes questions, je n'aurais pas le temps de les poser, mais... ça me rassurait.
Est-ce que c'était lié à votre trac ? Parce que j'ai découvert en vous lisant que vous aviez vraiment le trac.
Mais là, j'avais pas de trac. Si j'avais pas fait l'effort de lire le livre, alors j'aurais eu un trac épouvantable, mais affreux. Est-ce que là, j'avais toujours le petit trac qui fait qu'avant l'émission, on a un petit trou d'air, comme dans un avion. Mais après, j'avais plus le trac du tout. Parce que, encore une fois, j'avais tous ces bagages en moi, j'avais toutes ces cartouches qui faisaient qu'il ne pouvait rien m'arriver de dramatique.
Une fois que vous étiez en direct, c'est terminé.
Ah oui.
Le trac avait disparu, l'appréhension avait disparu.
Je raconte la première émission d'Ouvrez les guillemets en direct, sans préparation, sans maquette, sans répétition. Enfin, j'avais un trac fou et je me suis aperçu, tout en sueur, j'avais froid, je me disais, mais tu es fou d'avoir accepté ça.
C'était la première émission, première émission.
Et au bout de 2 minutes, je me suis aperçu que le trac était dissipé, que j'interviewais les gens comme si ce trac, je ne l'avais jamais eu. Je pose la question, est-ce que c'est moi qui avais dompté la télévision ou est-ce la télévision qui m'a dompté ? Je n'en sais rien, mais toujours est-il que le lendemain, Jacqueline Baudrier m'a appelé et m'a dit « Bon, alors j'ai vu votre émission hier soir, alors elle n'était pas bonne, mais c'est normal, c'était la première. Deuxièmement, vous ne remettez plus jamais cette veste, parce que vous avez l'air d'un garçon de café. Et troisièmement, je peux vous dire, vous êtes fait pour la télévision. »
Bernard Pivot, dans l'entrée de ce livre, Les mots de ma vie, vous avez sérénité.
Oui, je n'ai pas.
Et vous dites, comme je n'en ai guère, la sérénité est la qualité que j'admire et que j'envie le plus.
Ah, oui.
Vous l'avez rencontrée, cette sérénité, chez certains auteurs qui vous ont vraiment impressionné ?
Ah oui. Solzhenitsyn est un homme une sérénité extraordinaire. C'est vrai que j'y pense. C'est une très bonne question que vous me posez là. Et un homme comme Solzhenitsyn avait une sérénité devant l'histoire, devant Dieu, devant la littérature extraordinaire. Et devant ses bourreaux, il avait une sérénité. Sinon, il n'aurait jamais écrit cette œuvre. Ah oui, absolument.
C'est un homme qui vous a beaucoup marqué. À plusieurs reprises, vous le citez.
J'ai fait 4 émissions avec lui.
Oui, mais ce n'est pas uniquement pour ça.
Ah si. Ah, bah, oui, mais,
parce qu'il y en a d'autres. Que vous avez, non, Jean d'Ormesson, vous l'avez interviewé souvent aussi.
Mais, je n'ai fait qu'un tête-à-tête avec Jean d'Ormesson. Parce qu'avec ce génétique, j'ai fait 3 tête-à-tête. Donc, sur 4. Non, il était impressionnant. Parce que c'était plus qu'un grand écrivain. C'est un grand homme du XXe siècle qui avait échappé à la guerre, au goulag et au cancer. Vous étiez devant un personnage assez fabuleux, quoi.
Et toute sa maison, dites-vous, était construite, pensée oui. autour de l'écriture.
Sa maison aux États-Unis.
Aux États-Unis.
C'était étonnant parce qu'il habitait avec sa famille une maison qui était une maison américaine, mais il avait fait construire à côté, à une vingtaine de mètres, une sorte de tour, enfin une maison de 3 étages, qu'il avait fait construire pour écrire La Roue Rouge, c'est-à-dire le grand œuvre de l'histoire de la Russie lorsqu'elle bascule dans l'URSS. Et il avait donc, c'est la seule fois où j'ai vu donc un écrivain construire une maison autour de son œuvre.
C'est l'homme qui vous a le plus marqué parmi tous ceux
oui,
que vous avez rencontrés.
Oui, parce que encore une fois, c'est un des grands acteurs du XXe siècle. Donc il y en a pas beaucoup. Et en même temps, un formidable écrivain. Quand vous lisez L'archipel du Goulag ou Une journée dans la vie d'Ivan Denisovitch, vous êtes le premier cercle. Vous êtes ébloui quand même par la littérature de cet homme. Et en même temps, par exemple, j'ai été impressionné aussi par un homme comme Nabokov, qui est à l'opposé de Solzhenitsyn, qui est un homme au contraire un dilettante d'une culture extraordinaire, probablement très égoïste, très orgueilleux. Solzhenitsyn aussi, il était orgueilleux. Mais vous voyez, ce sont deux Russes complètement différents. Et je pense qu'ils ne seraient pas entendus, d'ailleurs.
Mais est-ce qu'on peut dire, Bernard Pivot, que ce sont des rencontres qui vous ont changé, qui ont changé quelque chose en vous, ou pas?
Peut-être, mais c'est difficile à dire. Vous savez, j'ai jamais eu des sortes de livres, dans le sens de dire, ma vie était avant ce livre, et puis ma vie était autre après ce livre.
Ou non. Après cette rencontre, a ouvert quelque chose en vous.
Je peux pas dire ça, mais
non.
Je pense que ce sont des gens qui m'ont modifié insensiblement et presque à mon insu. J'en suis persuadé. Par exemple, Nabokov m'a conforté dans mon goût des mots. Ça, j'en suis persuadé. Je me suis pas dit à un moment, oui, merci Monsieur Nabokov, grâce à vous, je vais faire un effort pour employer le mot juste que je vais prendre chez Émile, comme il disait, il appelait Émile familièrement, c'était le littré, vous voyez. Donc, mais en même temps, il m'a conforté dans ce goût pour le vocabulaire, le plaisir des mots. Vous voyez, j'en suis persuadé.
Bernard Pivot. Pour poursuivre cette émission avec vous aujourd'hui sur RCF, je vais prendre une entrée de votre dernier livre, Les mots de ma vie, et je prends l'entrée égo, parce qu'on dit beaucoup que la télé développe énormément l'égo. Je lis ce passage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Égo, nom masculin, invariable forcément. Un égo ne varie pas, ne transige pas, ne s'abaisse pas, reste toujours au sommet de sa considération. L'ego ne peut pas prendre la marque du pluriel. Un authentique et puissant ego refuse d'être mêlé à des moi subalternes ou d'imposteurs. Un ego n'a pas d'accent sur le « e ». Ce serait un pléonasme, car il est dans la nature même de l'ego de mettre constamment l'accent sur lui. C'est pas mal écrit quand même, ça, pour quelqu'un qui n'est pas un écrivain.
C'est vrai que le mot égo, un jour, je l'ai découvert. Alors, dans ce livre, il y a quelques mots qui m'amusent beaucoup parce que leur orthographe correspond à leur sens. Ça, je trouve ça extraordinaire. Bah, alors, le plus simple, c'est le mot libellule, parce que la libellule est un magnifique insecte qu'on appelle une demoiselle et qui a 4 ailes. Et vous prenez l'orthographe du mot libellule, il y a 4 ailes aussi. Donc, ça, ce sont des mots. Et j'aime beaucoup le mot égo. Je vous remercie de l'avoir lu. Parce que le jour où j'ai découvert effectivement que l'orthographe était vraiment, donnait même le sens du mot égo, j'ai trouvé, ça m'a ravi, quoi. Voilà.
Alors, et vous, votre égo, Bernard Pivot, quand on dit souvent que la télé rend fou, développe énormément l'égo, vous avez été confronté à ça à un moment où est-ce que vous avez pris peur face à votre égo qui gonflait?
Non, parce que précisément, vous avez rappelé ma naissance modeste, ma chance, la guerre passée dans la commune de Quincy-en-Beaujolais, l'école communale, tout ça a fait que j'ai remercié la chance ou le ciel, comme vous voudrez. Je trouve que mes moyens intellectuels étaient finalement assez modestes par rapport à des gens que j'ai connus qui m'ont toujours épaté, ébloui. Et donc j'ai une carrière marquée par la chance, par le travail aussi, et que j'allais pas en plus faire le fier, l'orgueilleux, et de dire, vous avez vu ce que j'ai fait dans ma vie, hein, c'est formidable, c'est un peu ça quand même l'ego. Oh,
ben oui, bon, mais vous auriez pu, enfin, certains l'ont fait, certains sont venus de milieux modestes et sont devenus très orgueilleux.
Je pense que je suis resté modeste. Ça m'empêche pas d'avoir aussi un peu d'orgueil ou d'un peu d'humilité, ça dépend des circonstances, hein, c'est bien sûr, mais la modestie, en même temps, on ne devrait pas en parler, parce qu'on ne doit jamais dire qu'on est modeste, sinon on ne l'est pas. Mais c'est vrai que j'ai l'ego, au fond, la seule exigence de mon ego, ça a été de faire la meilleure émission possible. Voilà. Et je le disais souvent, prendre les téléspectateurs au sérieux et ne jamais me prendre au sérieux.
Et en restant toujours à votre place, parce oui. que vous disiez souvent, ils étaient des écrivains, je n'étais qu'un journaliste.
Oui. Bah oui.
On rejoint ce qu'on disait au début.
Oui, bien sûr.
Et ça vous remettait toujours à une place
oui,
d'une certaine humilité.
Bah oui, j'étais le passeur, j'étais l'intermédiaire entre le public et les écrivains. J'étais ébloui par les écrivains. J'ai quand même reçu de très grands écrivains. Hein. Les Duras, les Simenon, les Solzhenitsyn, les Claude Lévi-Strauss, les Dumézil, etc. Quand même, on peut être qu'ébloui devant ces gens-là. Donc... Et en même temps, d'ailleurs, je raconte dans le livre, c'est qu'à l'époque, mais c'est pas, j'avais dit à l'époque, c'est si j'avais descendu les Champs-Élysées avec à ma gauche Claude Lévi-Strauss et à ma droite Julien Green, c'est à moi que les passants des Champs-Élysées seraient venus demander des autographes ou des photographies.
Parce que vous passiez à la télévision et qu'on reconnaissait votre tête.
J'aurais été honteux vis-à-vis de deux écrivains comme de cette trempe-là, j'aurais été honteux, honteux.
Alors justement, votre notoriété, comment est-ce que vous l'avez vécue ? Parce qu'elle est venue... très rapidement avec apostrophe.
Bah plutôt bien, trouvant qu'elle était un peu exagérée parce que la notoriété télévisuelle est évidemment la plus facile à obtenir par rapport au sport, par rapport à la science, au théâtre, à l'opéra, à la musique, etc. Et puis d'autre part, en même temps, je me disais que j'essayais de justifier cette notoriété par le travail que je m'imposais et aussi par la réussite de l'émission. Donc je trouvais que cette notoriété était un peu injuste par rapport aux écrivains, aux grands écrivains que je recevais, parce que j'étais notoirement plus célèbre qu'eux, entre guillemets, et en même temps je me disais qu'il fallait que j'essayais de justifier le mieux possible cette notoriété qui m'a accompagné depuis apostrophe.
Et qui vous accompagne toujours.
Qui m'accompagne
parce que vous
toujours.
Disiez, j'ai bien vécu ma notoriété, n'oubliant jamais qu'elle était éphémère, volatile.
Oui.
Elle l'est pour certains, mais pour vous, visiblement,
oui,
elle
mais
pas
là, c'est encore une chance extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, 11 ans après la fin de Bouillon de Culture, 5 ans après Double Jeu, qui a été ma dernière émission, je garde la confiance et la sympathie des gens qui m'ont accompagné durant toute cette aventure télévisuelle. Et ça, évidemment, c'est très agréable.
Il y a un moment délicieux dans Les mots de ma vie. Vous dites du temps d'ouvrir les guillemets et d'apostrophe. Des jeunes filles n'hésitaient pas à me dire les yeux dans les yeux qu'elles m'aimaient beaucoup. Les années ont passé et d'autres jeunes filles m'ont déclaré avec un beau sourire que leur mère m'aimait beaucoup. Le temps a poursuivi sa route, moi aussi, et depuis quelques années, d'autres jeunes filles, avec une innocente cruauté et toujours avec un sourire enjôleur, me confient que leur grand-mère m'aime beaucoup. Sic transit Gloria Mundi.
Ben oui.
Ça vous fait rire quand même.
Bah oui,
vous
ben oui
bien.
C'est ça, c'est la vie. C'est, ben oui, c'est comme ça. En même temps, bon, je préférerais évidemment que la jeune fille de 25 ans, avec une beauté et un grand sourire, me dise qu'est-ce que je vous adore. Mais non, il ne faut pas compter là-dessus. Mais en même temps, c'était très agréable quand j'avais 30 ou 40 ans de moins qu'elle me dise ça en me disant je vous aime beaucoup.
Voilà. Alors vous, Bernard Pivot, qui est très attentif aux mots, à l'entrée vieillir, vous dites c'est chiant.
Oui.
Vous avez utilisé ce mot.
Oui, oui, parce que alors, figurez-vous que ça, alors, je me revois écrivant j'ai mis le mot vieillir, puis j'ai dit comment, vieillir, c'est mortel, vieillir, c'est terrible, vieillir, c'est effroyable, vieillir, c'est. Et puis j'ai dit, mais non, mais c'est des adjectifs qui sont pas bien. Et d'un seul coup, j'ai dit, ah non, je vais mettre vieillir, c'est chiant. Parce que chiant, c'est un adjectif dynamique. C'est un adjectif comme ça qui fait que dans la phrase, dans cette petite phrase, je dis que je vieillis, mais en même temps, et que c'est embêtant de vieillir, mais en même temps que je réagis et que je lutte contre le vieillissement. Voilà, c'est ça. Vieillir, c'est chiant. Mais je le dis avec énergie, avec bravoure, avec autorité, avec opiniâtreté. Et puis voilà. Même si le mot n'est pas très joli.
Alors comment faites-vous pour vieillir énergiquement? Quel est votre
secret?
C'est d'écrire.
J'écris, je garde, bon, je touche du bois, le bois de votre table, parce que je suis toujours un petit peu superstitieux, et j'ai pour le moment une bonne santé, donc la gourmandise, le vin, la bonne chère, la famille, l'amour un peu, toujours, bon, voilà, c'est et puis le sport, enfin je fais plus de sport moi-même, mais enfin j'aime beaucoup, la télévision, enfin bref, il y a beaucoup de plaisir dans la vie, je trouve qu'il y a des plaisirs du troisième âge mais en même temps qui sont pas spécifiques du troisième âge, qui sont aussi ceux du premier et du deuxième âge. La curiosité, par exemple. La curiosité, on l'a quand on est enfant, on l'a quand on est adulte. Moi, je l'ai toujours, alors que je vais avoir 76 ans demain. Donc, je l'ai toujours, cette curiosité. Cette curiosité, eh bien, elle me permet de ne pas vieillir.
Visage, Thierry Lyonnais.
Bernard Pivot, qui dit vieillissement, dit cheminement vers la mort. Oui. La mort, elle est présente aussi dans votre livre, et notamment dans les deux entrées qui ont une dimension spirituelle.
Oui.
Foi et prière.
Oui.
Vous n'avez pas mis Dieu, mais vous avez choisi foi et prière. J'aimerais bien, naturellement, sur RCF, oui, qu'on parle un instant d'un domaine, d'un domaine que vous n'aimez pas beaucoup traiter, c'est celui de la foi. Vous dites « rien n'est plus intime et plus secret que la foi ». Ou l'absence de foi.
Oui.
Pourquoi cette réticence à parler
simple.
De la foi?
C'est très simple. C'est parce que quand j'étais adolescent, enfant adolescent, j'ai eu la foi. Et puis qu'elle s'est dissoute peu à peu. Elle a disparu comme ça au fil des années. Et un jour, je me suis retrouvé, j'avais plus la foi. Et c'est un regret. C'est pas le seul regret de ma vie, mais c'est un regret. Parfois, je me dis, mais j'aimerais bien retrouver à la fois le confort et la cette espèce de torture de la foi,
confort et torture.
Oui, un petit peu, oui, bien sûr, parce que je pense que la foi, sauf si vous avez une foi vraiment du missionnaire ou du charbonnier, alors là, vraiment, c'est formidable, mais c'est pas donné à tout le monde. Donc, j'aimerais bien de temps en temps recouvrer les chemins de la foi, d'où en moi une palabre interminable, mais que je trouve réservée à moi. C'est entre moi et moi, c'est douloureux, c'est parfois embêtant, j'ai écrit un feuillet là-dessus pour dire voilà, c'est la chose la plus compliquée. Moi, je veux bien qu'on parle de mon testament, de ma prostate, de tout ce que vous voudrez, de ma gourmandise, mais la foi, c'est très 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 secret, c'est très à l'intérieur de moi, c'est entre moi et moi, et finalement laissez-moi ce jardin secret.
Oui, mais c'est là où Bernard Pivot, vous êtes paradoxal, parce que
oui,
vous,
c'est bien d'être paradoxal.
Peut-être, mais dans votre questionnaire de la fin de Bouillon de Culture, la fameuse dernière question, la numéro 10.
Si Dieu existe,
qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? C'est vous quand même qui interrogiez les autres sur Dieu.
Oui, mais ça ne m'empêche pas.
C'est
pas parce que j'ai perdu la foi que d'abord que j'essaye pas de la recouvrer, et deuxièmement, c'est pas pour autant que je dois négliger les gens qui peuvent avoir la foi et qui peuvent d'ailleurs s'interroger sur leur foi ou leur absence de foi.
Mais ça veut dire que ça vous intéressait de poser cette question?
Oui, bien sûr. Sinon, je l'aurais pas inventé.
Et la réponse surtout autour de cette question.
Oui, bien sûr. J'enregistrais il y avait d'ailleurs des réponses tout à fait étonnantes. Alors la plus belle réponse qui a été faite, mais la plus terrible, a été faite par l'auteur dramatique Jean-Claude Briseville. Et qui, je suppose, qui a dû être très malheureux dans sa vie, parce que à la question « Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire ?» il a dit « Pardon ». Je me rappelle quand il a prononcé son pardon, Dieu disant pardon à la créature qui se présente devant lui, je me rappelle qu'il y a eu 3-4 secondes d'un silence épais.
Et vous, Bernard Pivot, si je vous pose la question aujourd'hui, pas de pirouette. Ne me ressortez ben oui, pas la réponse du dernier bouillon de culture.
Elle est dans le livre. J'ai donné.
Celle d'aujourd'hui, là, à l'instant présent où nous sommes ensemble.
Je ferai la même que qu'est dans le livre.
Vous voyez, vous l'avez prémédité, celle-ci.
Parce que je fais une pirouette, évidemment. Je fais une pirouette. Oui, mais on parlera de la prière. Je fais pas de pirouette à la prière.
On parlera après de la prière. Bernard Pivot, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire ?
Ah, Pivot, expliquez-moi la règle des participes passés des verbes pronominaux dans la langue française, parce que moi, tout Dieu que je suis, je n'y ai jamais rien compris.
Ça, c'est une pirouette, Bernard.
Oui, c'est une pirouette avec un grand P.
Alors, c'est marrant.
Parce que je vous ai dit que je ne veux pas parler de ma foi, de mon absence de foi. Voilà. Cela dit, je vais quand même vous dire, je préférais qu'ils me disent... mon cher Bernard, écoutez, venez donc entrer dans le paradis, parce que vous avez eu tort de douter de l'existence du paradis. J'aimerais évidemment qu'ils me disent ça. Qui n'aimerait pas entendre dire ça ? Hein ? Voilà.
Alors justement, dans l'entrée prière...
Oui, alors ça c'est un texte...
Très profond, hein,
ah, oui.
Je ne peux pas le lire,
C'est le dernier texte que j'ai écrit.
C'est le dernier.
C'est le dernier, parce que je me suis dit, je vais écrire la prière... qu'on lira sur le jour où on m'enterrera dans le cimetière de Quincy en Beaujolais, donc avant de mettre le cercueil dans la terre, voilà la prière qu'on dira.
Donc, cette page 294 et 295, c'est ce qu'on va lire le jour de votre, mort.
Je pense que mes filles y penseront, que ma famille y pensera.
Je veux lire un passage, la fin. « Ô vous, hommes et femmes, dont les noms sont gravés sur la pierre au-dessous de laquelle je deviendrai charogne, puis squelette, enfin poussière, d'entre vos poussières, accueillez-moi avec amour. Ainsi soit-il. Oui. Il y a beaucoup d'espérance malgré tout derrière, puisqu'il y a encore l'amour, l'accueil.
Attendez, j'ai pas dit que j'étais sans espérance. J'ai beaucoup d'espérance. D'ailleurs, ce qui m'empêche de vieillir, c'est l'espérance. Je vous ai parlé de la curiosité, mais l'espérance aussi. Évidemment. C'est une drôle d'idée de penser que je suis sans espérance. Toute ma vie, j'ai eu beaucoup de l'espérance. Alors, j'ai peut-être une espérance aujourd'hui qui est un peu laïque, qui est un peu sortie du contexte religieux, mais qui vous dit que je ne vais pas retrouver cette espérance dans les années qui viennent.
Oui, parce que qu'est-ce que vous lisez actuellement ? Vous lisez beaucoup de romans ou vous lisez, par exemple, des livres questionnant sur Dieu aujourd'hui.
À cause de l'Académie Goncourt, je suis obligé de lire énormément de romans français. Dès que va arriver le mois de juin, juillet, août, il faut lire pratiquement un livre par jour ou un roman tous les deux jours pour dresser la liste des candidats au prix Goncourt. Et puis, je suis critique littéraire au Journal du Dimanche, donc il faut que je lise des livres de littérature.
Mais du coup, vous n'avez pas le temps de lire des grands classiques comme Saint-Jean de la Croix ou Thérèse d'Avila
ou Saint-Augustin. Saint-Augustin. Ouais. De temps en temps, dans la Pléiade, je prends Saint-Augustin, je lis une page, comme je lis une page de Voltaire ou une page de Paul-Louis Courier.
Bernard Pivot, vous dites que le plus beau mot de la langue française pour vous, c'est aujourd'hui. Mmh. On rejoint un peu ce qu'on disait jusqu'à maintenant, c'est l'instant présent, c'est maintenant qui est important.
Oui, c'est parce que c'est un mot de journaliste. Nous vivons journalistes dans le temps présent, aujourd'hui. Quand nous nous réveillons le matin, nous sommes des... D'ailleurs, nous disons, c'est une chose extraordinaire, nous sommes le jour du temps. C'est-à-dire que nous nous approprions la journée. Nous considérons que la journée que nous allons vivre, et nous, ça ne fait qu'un. C'est extraordinaire, cette expression. Et donc, aujourd'hui, c'est un mot de journaliste, parce que c'est ce mot qui va nous servir à faire des textes qu'on va écrire, qu'on va lire, ou bien des images pour la télévision. Et puis surtout, il y a une chose qui me plaît beaucoup dans aujourd'hui, c'est la petite apostrophe qui est entre le D et le H.
Mais c'est aujourd'hui, à la manière journalistique, est un aujourd'hui qui passe très très vite. C'est la course en avant en permanence, non ?
Oui, mais
est-ce qu'on est vraiment dans l'aujourd'hui, dans l'instant présent, quand on est journaliste, courant après l'info sans arrêt ?
Moi, si, j'aime bien. Je trouve qu'aujourd'hui, ça sent le café, le pain grillé, ça sent la radio du matin, ça sent le dîner que je vais, par exemple, ce soir faire avec mes enfants. Je trouve que c'est un très mot. Évidemment, il y aura un aujourd'hui qui sera celui de la mort. Mais bon, j'espère que j'en parle, je l'évoque aussi en disant que malheureusement, je pense que je ne mourrai pas dans la sérénité, parce que la sérénité, je ne l'ai pas eu de mon vivant. Je ne vois pas comment je pourrais l'avoir le jour de ma mort. Enfin, on ne sait-on jamais.
Mais elle vous attire, cette sérénité ?
Ah ben oui, parce que c'est vraiment une grande qualité. Moi, je parle d'une amie qui a eu beaucoup de coups durs dans sa vie et je suis ébloui par sa sérénité. Sa sérénité se voit sur son visage. C'est pas joué, c'est pas une sérénité factice, pas artificielle, pas du tout. On voit très bien qu'elle a surmonté par sa volonté, par la méditation, peut-être par d'autres moyens que j'ignore. En tout cas, elle a surmonté tous les coups durs qu'elle a eu dans sa vie et elle a cette sérénité en elle. Chapeau.
Bernard Pivot, ça me fait vraiment drôle d'être là face à vous qui, pendant des années, avez été un questionneur professionnel. Donc c'est moi qui vous questionne sans arrêt depuis un moment. Le fait que vous ayez passé une grande partie de votre vie à questionner les autres, est-ce que cela a des répercussions sur votre vie personnelle ?
Oui. Et d'ailleurs, c'est peut-être le prochain livre que je vais écrire, ce sera sur ce sujet-là. D'ailleurs, je le dis un peu dans au mot question. C'est-à-dire que j'ai passé ma vie à poser des questions. D'abord dans la presse écrite, puis à la radio et surtout à la télévision. C'est un retentissement dans la vie privée parce que j'ai beaucoup posé de questions dans ma vie privée aussi, beaucoup. Alors au début, les gens sont charmés, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à eux. Parfois, on peut devenir très fatigant pour les intimes.
Mais c'était une déformation professionnelle ou c'était le complexe du garçon de café de Jean-Paul Sartre?
Non, c'est une déformation professionnelle. J'adore poser des questions. Je préfère être à votre place plutôt qu'à la mienne, là, actuellement. C'est évident.
Pourquoi c'est une...
Parce que mon métier, c'est de poser des questions, c'est pas d'apporter des réponses.
Au-delà du métier.
Comment ?
Ça peut être aussi perçu comme agréable de parler de soi et de répondre à des questions.
Oui, par exemple, j'éprouve beaucoup de plaisir à répondre à votre question, mais je pense quand même que mon métier, où je suis quand même le meilleur, c'est de poser des questions, et même si j'admire votre art de poser des questions, je pense que ça a un effet sur la vie privée. Alors, je suis pas un emmerdeur. Et si je fais un livre, évidemment, ce sera plutôt un livre drôle. Un livre drôle en poussant la caricature du questionneur professionnel qui emmerde tout le monde dans sa vie privée avec ses questions qui n'en finissent plus. Mais je suis un petit peu cet homme-là. Mais si, évidemment, j'écris le livre, je le pousserai à la caricature. Sinon, ça serait pas drôle.
Alors, est-ce que vous n'avez pas poussé un peu à la caricature de votre métier quand vous avez parlé de prédateur? Comme quoi, quand vous arriviez avec vos équipes de tournage chez un écrivain, vous étiez comme des prédateurs.
Oui.
C'est fort,
oui,
ça.
Oui.
C'est violent, j'ai trouvé,
pour
les journalistes.
En fait, c'est un peu violent. Nous étions des bons prédateurs. Mais c'est vrai, quand vous arrivez avec une équipe de télévision, je me rappelle l'arrivée chez Solzhenitsyn aux États-Unis, on arrivait à 14, parce qu'il y avait les traducteurs, il y avait tout, il y avait son éditeur. Il y a de l'affolement dans le regard de l'écrivain. Et quand on s'empare ensuite de son salon ou de son bureau et qu'on y fiche la pagaille, il faut bien le dire, parce qu'on dit là, ça va pas du tout, il faut enlever les livres, on va en remettre d'autres, changer les fauteuils de place, etc. L'écrivain, il est affolé. Il dit, mais c'est mon bureau. Et on voit. Alors, le réalisateur, je lui dis, ne vous en faites pas, on va remettre tout ça en place. Et c'est vrai que le réalisateur a l'œil et il sait très bien qu'on va remettre tout ça en place. Généralement, on fait sauter l'électricité. L'écrivain était souvent affolé de voir. Et puis après, moi j'arrive.
Mais vous étiez un prédateur avec vos questions.
Oui, j'arrive, c'est tout prêt. Et 10 minutes après, je commence à poser des questions pendant 1h15. Et puis, on pose des questions, puis on remballe tout, on met tout en place, on boit un verre, et hop, et on s'en va. Et on lui dit, bon, l'émission sera diffusée le temps, on vous enverra une cassette. on a le sentiment d'être un peu un prédateur, d'avoir une sorte de brigandage, un brigand, ouais, qui est arrivé avec toute une équipe, qui a fichu le bordel dans l'appartement ou la maison de l'écrivain, et qui s'en va en emportant les réponses à ses questions, en emportant du butin.
Oui, mais c'était pas pour vous, c'était pour le partager avec des millions de téléspectateurs.
Bien sûr, mais je vous dis pas qu'il y a pas une exagération là-dedans aussi. Mais n'empêche, j'avais ce sentiment quand même de repartir avec, en disant j'ai mon butin là, ça y est, j'ai les images, j'ai les propos, j'ai tout ce qu'il faut pour faire une bonne émission. Donc voilà, c'est ce sentiment d'avoir de brigandage un petit peu.
Oui, mais un brigand qui a l'œil qui pétille, parce que quand vous me racontez ça, je vois l'œil qui pétille. Et qu'est-ce qui vous a rendu vraiment le plus heureux dans votre métier?
C'est évidemment les très bonnes interviews, les scoops, comme ce métier, à terme de journaliste. Avoir Nabokov, avoir 4 fois Solzhenitsyn, avoir
Marguerite Yourcenar,
Duras, avoir Simenon, la dernière grande interview de Simenon, c'est moi qui l'ai obtenue. La dernière grande interview de François Mitterrand, c'est moi qui l'ai obtenue. Et donc oui, j'en suis fier. Là, je parle avec un peu d'orgueil. Là, je ne suis plus modeste, hein, vous voyez. Vous me poussez à l'immodestie.
C'est journalistique, là, en fait.
Mais c'est journalistique. Donc, fatalement, c'est des souvenirs formidables dans ma vie professionnelle.
Alors, c'est pas d'avoir aidé des milliers de téléspectateurs à découvrir la lecture ou à aimer davantage la lecture. Est-ce que vous répondez souvent?
J'allais y venir. Deuxième chose, c'est évidemment d'avoir fait œuvre utile. Ça, c'est une émission, je le dis, je l'écris, une émission littéraire qui n'incite pas les gens à lire, elle ne sert à rien. Donc j'ai incité des dizaines de milliers de gens à acheter les livres. Je dis toujours, pas vendre les livres, je m'en fous, moi, que la vente des livres. Ce qui est intéressant, c'est l'achat, c'est que les téléspectateurs entraient dans la librairie le samedi matin et achetaient l'un des livres présentés la veille. Et ça, évidemment, c'est ma fierté aussi d'avoir encouragé la lecture, et c'est toujours une fierté quand des gens m'abordent qui ont maintenant entre 30 et 40 ans et qui me disent, grâce à vous, j'ai aimé lire, je lis toujours, mes parents m'ont obligé, j'avais 14 ou 15 ans à regarder Apostrophe ou Bouillon de Culture, j'étais pas content au début, puis après j'y ai pris goût, et depuis après je suis devenu accro à votre émission, et donc je vous en remercie. Alors souvent j'embrasse les dames parce que elles sont contentes, et puis je serre chaleureusement la main des mes messieurs qui me font des compliments. C'est un compliment qui me touche, évidemment. Comment ne pas être touché par ça? On se dit, je n'ai pas raté ma vie professionnelle.
Je n'avais pas envie du tout, au cours de cette émission, de vous poser les fameuses questions. Et alors, quel est l'écrivain que vous aimez le plus? Non. Mais j'ai quand même été intrigué parce que vous nous donnez la réponse dans le livre de l'écrivain vivant que vous admirez le plus et qui n'est pas très, très connu, malheureusement. C'est Simon Leys.
Oui.
Pourquoi est-ce que c'est cet homme-là que vous admirez le plus aujourd'hui?
Parce qu'il a une... D'abord, c'est un écrivain remarquable. C'est le plus grand sinologue français. Il a traduit des grands textes chinois. Il a spécialisé la civilisation chinoise. Il vit à Canberra où il enseigne justement la littérature et la civilisation chinoise. Il est lui-même un écrivain et un traducteur spécialiste, évidemment, connaît la littérature française et la littérature de langue anglaise d'une manière extraordinaire. Mais en plus, c'est un homme qui a vécu ce que peu d'hommes ont vécu, et avec un courage extraordinaire. C'est-à-dire que lui, il a été témoin de la révolution culturelle en Chine. Il a vu que c'était l'horreur, et il a écrit son témoignage dans les habits neufs du président Mao. Et il s'est fait insulter par tous les intellectuels de gauche de l'époque qui trouvaient que Mao, c'était vraiment la panacée. Et il s'est fait insulter, on dit, agent de la CIA, il en a beaucoup souffert.
Et c'est son courage que vous admirez particulièrement.
Son talent et son courage. Son talent et son courage. Son talent, sa culture et son courage. Et j'ai eu le plaisir de le recevoir à Apostrophe. Ça a été une des émissions dont les gens se souviennent le plus, parce que il faut bien le dire, c'est peut-être le seul homme indigné que j'ai reçu, indigné, parce qu'il était en face d'une intellectuelle italienne qui s'appelait Maria Antonietta Maciocchi, qui avait écrit un livre stupide sur la Chine, qui avait fait 15 jours de voyage en Chine, on avait ramené un livre faux, et là il l'a ridiculisé, et à travers elle il a ridiculisé tous les intellectuels français et européens qui avaient ramené de Chine des livres stupides et mensongers.
Zut alors, l'émission se termine.
Zut alors.
Zut alors. Oui. Ceux qui liront votre livre comprendront pourquoi je termine comme ça. Zut alors, se termine pas par un point final, mais par un point d'exclamation. Oui. Merci Bernard Pivot, vraiment merci d'avoir non seulement contribué à nous faire aimer la littérature, mais d'avoir aussi accepté de participer à cette émission Visage.
Oui, alors il y a merci aussi dans mon livre, et je me moque évidemment des merci beaucoup, mille fois merci, donc merci.